Voilà, on reparle 63. Est-ce que t'aimes ta job? Ça a l'air banal, mais c'était la question que j'avais ce matin. Bon, voyez-vous, il est 18h41. On est le mardi 26 juin. Normalement, comme je vous ai dit, mon podcast sort tout de suite après mon émission de radio qui finit à 11h le matin. Et puis là, j'avais un lunch, puis il a fallu que je parte rapidement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis un peu plus tard. Mais je prends le même sujet que je voulais faire tout à l'heure et je fais suite à l'émission de ce matin. Donc ce matin, quand je préparais l'émission en me levant ce matin, je me disais, on sort d'un week-end de 3 jours, puis on va rentrer à nouveau dans un week-end de 3 jours. Puis je voulais parler du travail. Puis je voulais bien entendu choisir une question qui interpelle les gens parce que c'est toujours dans la question. Comme je vous ai dit, là, j'ai fait un podcast là-dessus, comment je gère ma ligne ouverte. Là, vous allez voir, il y a quelques temps, là, juste en bas. Puis, les deux principaux points qui font que le téléphone sonne, c'est que la question interpelle les gens de façon automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à réfléchir sur la question que je pose, mais c'est quelque chose qu'ils ont déjà, à quelque part, pensé avant ou vécu, donc témoignage ou point de vue, mais c'est déjà mâché, là, si on veut. C'est que ça, c'est bien important, si tu veux d'avoir beaucoup d'appels. Puis l'autre, il faut que moi, j'aie de quoi dire. T'sais. Puis sur ce sujet-là du travail, j'en ai beaucoup à dire parce que c'est très vaste, la place du travail dans la vie en général, etc. Puis la question, c'était, est-ce que vous aimez votre job? Puis sinon, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Puis est-ce que ça vous a causé du trouble si vous n'avez pas aimé votre job ou si vous ne l'aimez toujours pas? T'sais? À mots couverts, je voulais que les gens m'appellent pour me parler de burn-out, puis ça marchait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de burn-out. Puis moi, je sais que c'est un sujet qui est très peu traité dans les médias parce que c'est complexe, parce qu'à quelque part, il faut que tu blâmes quelqu'un. Puis quand tu blâmes quelqu'un puis que c'est un politicien, ou ben que tu sais, c'est comme normal. Mais quand tu blâmes un système social, quand tu blâmes une façon d'opérer les compagnies, quand tu blâmes des choses qui paraissent bien, parce que moi, ce matin, je me suis vraiment bidonné grave, parce qu'à un moment donné... On parlait, puis c'était très, très, très intéressant. Tous les appels étaient vraiment intéressants. Ce qui ressortait, puis je l'ai souligné, c'est que c'était jamais le nombre d'heures travaillées qui était la raison pour laquelle les gens craquaient en bout de ligne ou faisaient un arrêt de travail spécial. Hein. On pense que c'est tout le temps du surmenage, mais c'est pas vrai. Il y a un gars qui m'a appelé en disant, il dit, c'est malade. Il dit, à un moment donné, moi, j'ai toujours été vendeur. Un jour, je me suis fait offrir une grosse job dans le bureau. J'étais allé dans le bureau, ça a duré 3 ans, puis j'ai été en arrêt de travail 3 fois là-dedans. Puis il dit, la troisième fois que je suis allé voir le médecin, il m'a dit, là, je ne t'en donne plus des papiers. Tu n'es pas en burn-out. Tu es juste dans une job qui n'a aucun rapport. Puis ça, là, c'est archi fréquent, tu sais. Puis la différence que je disais, c'est que ça touche à l'émission de la semaine passée où je disais, y a-tu quelque chose que vous auriez aimé savoir quand vous étiez jeune? Puis là, il y a du monde qui a appelé. Il y a même une qui m'a braillé dans la face en disant, j'ai passé complètement à côté. Puis à la fin, c'était assez touchant, mais très intéressant. Puis les fils se touchaient aujourd'hui parce que les raisons pour lesquelles les gens ont craqué professionnellement, on l'a entendu, c'est le classique « je me donnais trop à mon travail ». Et là, j'ai commencé à rire, mais vraiment, là, tu sais, si vous réécoutez l'émission, là, vous allez sur fm93.com dans l'onglet « Recherche », vous faites « Boilard », puis vous voyez toutes mes émissions, même celles de l'an passé. Puis j'ai vraiment, là, tu sais, fait par exprès, là, « Ah, ah, ah », comme ça, là, parce que moi, j'ai toujours dit... Un des compliments les plus insidieux, les plus pourris qui existent, c'est « Ah, t'es donc perfectionniste » et les gens qui sont fiers d'être perfectionnistes. Parce que, puis il y a quelqu'un qui m'a amené, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui a surenchéri en disant « Moi, j'étais anxieux et perfectionniste. » C'est une fille, une jeune de 27 ans qui m'a appelé pour me dire ça. Que quand elle était étudiante à l'université, elle a fait un burn-out. C'est malade là, quand tu y penses. Elle dit « Tous mes repas étaient préparés une semaine à l'avance. » Puis tout. Puis là, elle m'a droppé ça de même comme si de rien n'était. Elle dit « Moi, j'étais anxieuse et perfectionniste. » J'ai fait « Mais crime, les deux vont ensemble. » Les deux vont ensemble. C'est les perfectionnistes que tout le monde applaudit. Pourquoi tout le monde applaudit les perfectionnistes en passant? Parce qu'ils servent à tout le monde sauf à eux-mêmes. Point barre. Là. Quand tu es perfectionniste, tu rentres dans les virgules et les détails, ça change quoi en bout de ligne? Qu'est-ce que ça change, les détails, en bout de ligne? Le mot le dit, regardez dans le dictionnaire si vous ne me croyez pas, c'est un détail. Alors, évidemment, un détail qui fait qu'un pont s'écroule, c'est plus un détail, mais un vrai détail, là, qui fait en sorte que 80% de la job est super, mais il y a le petit 20% qui n'est pas clean. Ça aide qui, c'est en bout de ligne? Ça aide toutes les autres. Ça aide tout le monde. Les perfectionnistes aident tout le monde. Tout le monde aime les perfectionnistes. Mais qu'est-ce que ça leur donne en bout de ligne? Et j'ai expliqué la loi de Pareto, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui dit que dans la vie, c'est 20 % des choses qui fait 80 % la différence. Même dans les relations, ce qui fait vraiment la différence que vous tripez chez vos amis ou votre conjoint ou peu importe, c'est 20 % de sa personnalité. L'autre 80 % sérieux, ça pourrait être, ouais, il aime les échecs, il n'aime pas les échecs, tu sais. Mais puis c'est dans tout. Et ces proportions-là sont vraies aussi au niveau du travail. C'est-à-dire que le 20 % qu'il faut faire pour que la job soit parfaite, tu sais, mettons, tu as 80 % qui est bien faite, mais là, tu veux faire le dernier 20 % pour que ça soit parfait, ça te coûte 80 % de tes énergies. Mais ça rapporte pas 80 %. Non! Fait que ça faisait partie aussi de la dynamique où tu voyais que les gens qui se brûlaient au travail, c'était souvent des perfectionnistes. Les perfectionnistes sont souvent anxieux. C'est leur façon de baisser l'anxiété, c'est de dire « je vais tellement régler tous les détails qu'en bout de ligne, il n'y en aura pas de problème ». Ben, je vous annonce qu'anyway, il y en a des problèmes. Anyway, il y en a des problèmes. Parce que la vie, c'est des équipes, c'est du monde. À moins que tu sois un ermite, ça veut dire que tu peux essayer que ton bout de job est parfait, arriver dans le cours de l'autre, ça ne l'est déjà plus. Ça fait que moi, je riais de tout ça en disant, comprenez le message, c'est pas d'être botcheux, c'est juste que être perfectionniste, il y a un coût énorme, puis qui sert à tous ceux qui en profitent à l'extérieur de la personne elle-même. T'sais. Ça fait qu'on a entendu vraiment, vraiment des affaires intéressantes, mais ça, je trouvais que c'était un point qui était hyper important, donc je voulais en parler dans le podcast aujourd'hui. Puis l'autre point, c'était ça, c'est que c'est pas quantitatif. Il y a personne qui m'a appelé en disant, écoute, je faisais 80 heures par semaine, j'ai craqué. Personne. Si quelqu'un faisait beaucoup d'heures, c'était uniquement lui. Il y a un gars qui m'a appelé en disant, je travaillais en informatique au gouvernement. Tout le monde me disait, t'es donc bien cave de travailler autant. Mais lui, il pensait à sa job, etc. Puis il revenait, puis il était tout le temps. Puis à un moment, il a craqué. Ça fait qu'il dit, c'est pas parce qu'on m'obligeait à travailler trop. Je travaillais trop parce que j'étais perfectionniste. Tu sais, alors, ça revenait souvent qu'en bout de ligne, c'est un peu poche à dire, mais les gens qui sont appelés à faire un épuisement professionnel, là, dans le vrai terme, ben c'est en grande partie de leur faute. C'est pas la faute de l'univers, c'est rarement la faute de l'employeur. Oui, les boss aiment les employés qui donnent plus d'heures que moins d'heures. Absolument, OK, fine. Mais on aime surtout, je dis « on » parce que, bon, moi, je suis à mon compte, puis j'ai des fournisseurs, là, tu sais, avec mon classeur ou d'autres affaires. On aime surtout les gens qui livrent. On n'aime pas nécessairement les gens qui font des heures. Ça, c'est malsain. Alors, je sais qu'il y a des boss bizarres de même qui arrivent avant tout le monde, puis qui stressent tout le monde, puis qui calculent les heures. Mais les gens quantitatifs, moi, ça m'impressionne zéro, là. Un concierge qui fait plein d'heures, là, ça reste un concierge, là. C'est pas lui qui fait le chiffre d'affaires, là, je suis désolé. Ça fait que... En tout cas, bref, tout ça pour dire que ce matin, c'était très, très, très intéressant de voir... Bon, vous comprenez que l'émission était dans un autre registre que vendredi, là, où là, j'ai dit « Connaissez-vous des business avec des noms bizarres? » Et le grand gagnant a été Construction Léonard de Brindisi. Non, mais, tu sais, je veux dire, on a pleuré pendant une heure et demie de temps, là, tous les noms que j'ai entendus, puis je recevais des photos sur Facebook, le salon de toilette, mon chien sale. En tout cas, allez voir sur ma page Facebook, Marc Boilard, pas Boilard Podcast, mais Marc Boilard. Puis vous allez voir juste qu'est-ce que les gens, la veille, quand j'ai callé ça, qu'est-ce que les gens m'ont envoyé, puis vous allez capoter, là. Un camion, un food truck de sandwich de porc effiloché qui s'appelle Jurassic Pork. Ben ça, c'est pas cave, là, c'est comme drôle, avec tout le dessin fait comme Jurassic Pork. Mais il y en a, c'est vraiment, tu fais, hein, je peux pas croire. Bref, c'était très drôle. Mais je fais juste souligner que je prends un malin plaisir à changer de registre d'une journée à l'autre. Puis aujourd'hui, mon défi, c'était « ça va-tu être trop dark? Le monde va-tu justement m'appeler en braillant? J'ai fait un burn-out! » Mais non, ça n'a pas été ça. Ça n'a vraiment pas été ça. Ça a été, excusez-moi, ça a été hyper intéressant. Puis ce qui ressort, c'est ça, c'est que c'est pas quantitatif. Les gens qui se brûlent au travail, c'est règle générale de leur faute. Puis je dis pas ça en voulant dire là, de leur faute, genre un niaiseux, ça n'a aucun rapport. Je fais juste dire que c'est rarement un facteur extérieur, que tu n'as pas le choix. C'est rare que les gens ont des burn-out parce que sont avec un boss qui les obligeait à faire un travail qui brûle. C'est pas ça. Ça peut être un boss qui est invivable, par contre. Ça arrive. Un boss invivable, c'est épouvantable. J'ai parlé, entre autres, aussi de l'initiative que Québec solidaire, il y a à peu près 6 mois de tout ça, 6 mois, Québec solidaire a dit « on aimerait ça avoir un projet de loi anti-burnout ». Et moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent parce que souvent, la politique s'occupe de trucs qui font les médias mais qui ne touchent pas le monde dans le quotidien. Ça devrait être ça beaucoup, la politique, là. S'occuper aussi du quotidien des gens, mais s'en occuper, pas leur dire quoi faire, mais s'en occuper, là, hein, comme on dit. Mais la solution proposée, dès le départ, je la trouvais à chier, c'est-à-dire mettre plus de congés. Mais non, c'est pas ça. La personne qui craque au travail, si tu lui donnes plus de congés, puis ça, j'avais écrit un post sur mon LinkedIn qui avait été très populaire, j'avais eu plein de commentaires par rapport à ça, c'est que si tu donnes plus de congés à quelqu'un dont le travail ne convient pas, soit parce que les relations personnelles sont épouvantables, soit parce que la personne est assise dans une chaise qui ne convient pas, OK, peu importe, tu fais juste y donner plus de jours à stresser quand est-ce qu'elle retourne travailler. Sérieusement, n'importe qui l'a vécu va dire c'est vrai. Moi, je l'ai vécu. Moi, quand je suis arrivé à Juste pour rire, c'était le bordel là-bas, c'était l'enfer, là. Je venais de finir mon stage en droit, je travaillais avec des petits avocats tranquilles, droit comme une barre. Puis trois semaines après, je travaillais Juste pour rire, je vendais des billets pendant le festival, imagines-tu le clash. Puis après ça, je suis tombé dans un nouveau département qui s'appelait la formation, puis qui avait deux directrices, c'était un combat de coq perpétuel. C'était invivable. Puis moi, j'étais là-dedans, puis je capotais. T'sais, c'était un cirque, là, dans ce temps-là, Juste pour rire. C'était dans le temps du musée Juste pour rire. Je vais juste dire musée Juste pour rire. C'était extrêmement difficile de travailler là, sérieux. Pour moi particulièrement, mais pour tout le monde. Il y avait un roulement d'employés de malade. C'était n'importe quoi. Ça roulait pareil. C'est pas que c'est n'importe quoi, mais ça marchait pas. Ça marchait, mais quand tu regardes comment ça s'était géré à l'interne, ça frôlait de miracle. Puis moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu c'est quoi craquer, tu sais. Puis j'étais en pleine forme, là. J'étais en pleine forme. J'ai mis de bien de médecin, ça part à part. Mais un jour, j'ai vraiment fait crime. Il faut que j'arrête parce que je vire fou. Je vire fou. J'avais fait une grosse crise d'angoisse un soir, là, les grosses crampes dans le ventre, puis telle affaire. Ça fait que c'est un sujet qui est dark, mais c'est un sujet que je me plais à mettre de l'avant puis que j'aimerais voir plus souvent discuter. Les gens, aujourd'hui, là, souvent appelaient en disant « Hey, ton émission aujourd'hui, ça va faire du bien à plein de monde. » Le monde me le disait en onde. Parce qu'effectivement, c'est tout dans le domaine du non-dit. C'est gênant. C'est comme « Tu vas-tu passer pour un pas bon, un lâche, un faible? Il faut que j'arrête. » Tu sais, c'est zéro, là. Il y a tellement de nuages gris autour des gens qui en arrachent dans leur travail. Puis il y a un gars qui m'a... C'était hot, le premier, il s'appelle Mathieu, je me souviens. Le gars qui, tu sais, que je vous dis, qui disait, hey, « Moi, ça fait 17 ans que je suis vendeur, je trippe au bout. Je ne vais jamais prendre ma retraite à moins que ma santé soit défaillante. C'est fait pour moi, sauf un épisode où on m'a offert d'être dans le bureau avec les grosses conditions. Puis il pourrait me rappeler, m'offrir deux fois le salaire. Je fais là, jamais je retournerai. » Tu sais, tu voyais c'était quoi sous forme d'un témoignage bien simple. Tu voyais exactement c'était quoi qui fait que quelqu'un est à sa place, puis quelqu'un ne l'est pas du tout. Puis je pense à plein de monde en disant ça qui sont sur des chaises correctes, mais ça n'a pas rapport. T'sais. C'est correct, mais ça n'a pas rapport. Ça fait que tu peux durer de même longtemps, puis à un moment donné, ça te rattrape. Tout te rattrape. C'est tellement... Tout te rattrape. Puis c'est ça qui est intéressant parce que, encore là, ça touche un sujet de la semaine passée. Où est-ce que je disais, le rêve que vous aviez, TQ, là, quand vous aviez 10 ans ou 15 ans, quel qu'il soit, ça quitte pas, ça. Ça vous quitte pas, là. Il y a un mot dans le dictionnaire, si vous voulez mettre un X sur vos rêves, ça s'appelle résignation. Puis je respecte ça. J'ai pas de problème quelqu'un qui dit, la vie m'a envoyé toutes sortes d'affaires. Je pense à une fille, là, actuellement, là, qui vit là, tellement le bordel. Puis c'est comme, oui, c'est un peu de sa faute parce que, bon, elle s'est matchée avec un gars qui a tellement pas rapport il y a quelques années. Mais elle paye cher, tu sais. Puis tu fais, est-ce que je la juge par rapport aux dernières années, justement, où c'est clairement un accident de parcours, ou je la juge à ce que je connais d'elle avant? Ça, c'est un exercice qu'il faudrait faire aussi, tu sais. Quand tu t'assures que quelqu'un te parle de son passé proche, bien, on peut extrapoler en disant, ah bon, elle de même, mais pas tout le temps. Des fois, c'est 20 ans de temps, tout va bien, puis 30 ans de temps, ça va moins bien, mais c'est correct. Puis les 7 dernières années, c'est n'importe quoi. Puis tu fais crime moins, t'as dit oui à embarquer dans une aventure que t'aurais pas dû. OK, lançons-lui des roches, mais on paye cher des fois des décisions. Puis à contrario, je peux vous dire une chose, parce que moi, j'ai décidé de vivre de même. On paye pas si cher de dire « Moi, je vais le faire ce que je veux faire dans la vraie vie. Je vais payer le prix. » C'est drôle, hein? On paye cher, je le pense en vous en parlant, puis je vais arrêter là-dessus. On paye cher de pas vouloir faire ce qu'on doit faire, puis quand on veut payer le prix de ce qu'on doit faire puis qu'on veut faire, on se rend compte en bout de ligne qu'on a tout le temps bien fait. C'est malade. Mais je vous le dis, je suis l'exemple parfait, je vous en parlerai à un moment donné. C'est juste mon trip à Paris, d'avoir fait 100 spectacles à Paris, ça m'a coûté de l'argent. Mais je veux dire, tous les jours, je pense à ça, tous les jours. Accordez-vous une valeur au souvenir? C'est ça la question aussi. Ou vous accordez juste une valeur à savoir que vous allez avoir une retraite tranquille à fucking rien faire, je vous le rappelle, parce que vous allez être un retraité, ben gagnons ça. Alors, je vous laisse là-dessus, puis on se reparle demain.